pendant longtemps, j'ai travaillé pour Le Français dans tous ses états, qui était donc une revue de lettres qui était en ligne. Mais je crois que l'essentiel, c'est de dire que je suis un professeur de lettres sur le terrain qui mène depuis longtemps une réflexion et de nombreux projets. Et donc, le défi qui m'a été lancé par mes deux collègues, un de chaque côté, c'est d'essayer de travailler sur justement cette histoire des arts du point de vue en partant de ma discipline. C'est-à-dire qu'il s'agit dans ce projet-là de dire, voilà, un enseignant de lettres en lycée qui doit ou qui va essayer d'entrer dans ce parcours qu'on propose, eh bien, quelles sont les pistes et finalement, pourquoi y aller, comment y aller. Donc, parmi les objectifs du BO, j'ai voulu partir sur des objectifs qui, pour moi, étaient essentiels par rapport au choix d'une histoire des arts. Donner à chacun donc une culture commune, on en a parlé. Organiser une rencontre sensible et réfléchie avec les œuvres d'art de tout pays, de toute époque. Donc je rappelle ces trois objectifs parce que je pense que c'est important d'y décliner des choix après à l'intérieur de ces objectifs. Développer d'autres façons d'enseigner, croiser savoir, on l'a dit, savoir-faire et donc acquérir des compétences nouvelles. Et puis dernier point, mieux cerner la beauté, le sens des œuvres et le lien, un mot qui a été employé ce matin, avec la société qui les porte. À partir de ces trois objectifs, il me semble qu'il y a des éléments très importants qui commencent à jaillir. Donner à chacun une culture commune, il faut donc la construire. Comment donner sans construire? Deuxième point, on en a déjà parlé, organiser la rencontre. Et puis, cet objectif, développer d'autres façons d'enseigner. Modestement, je ne sais pas si ce sont vraiment d'autres façons d'enseigner. Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce qu'il y a d'autres pratiques grâce à l'interdisciplinarité et l'entrée dans ce champ qui est désormais légitimé? Et ce dernier objectif extrêmement ambitieux, au centre de ce qu'est pour moi la littérature, mais l'enseignement des lettres ne se réduit pas à l'enseignement de la littérature, mieux cerner la beauté et le sens des œuvres abordées et le lien avec la société qui les porte. Donc cette idée que ces objectifs, je vais essayer, disons, résultat d'un bricolage de plusieurs années, de voir comment bien, je vais relever le défi. Deuxième défi, articuler les trois éléments, histoire, lettres et histoire des arts pour essayer de tisser un lien dans le rapport au temps. Alors c'est un défi pour tout enseignant de lycée qui a des problèmes de temps, qui a des problèmes de programme, qui, je le rappelle, a une priorité actuelle, la maîtrise de la langue. Et je voudrais qu'on parle aussi de cette maîtrise de la langue. Comment communiquer sur une œuvre d'art sans maîtriser sa langue ? Peut-être dans une langue étrangère, mais c'est un autre propos. Et puis, problème de la mise en place de ce qui est véritablement, désormais, une transdisciplinarité, puisque les outils de l'histoire des arts vont être communiqués, transportés, discutés, en maintenant la spécificité de chaque discipline. Enfin, modestement, effectivement, le prof de lettres ou le prof de français est un amateur, mais de là à construire des savoirs, nous posons des problèmes de compétences. Et pourtant, ce défi mérite d'être relevé. L'histoire des arts peut s'intégrer dans les séquences. Comment, pourquoi, nous allons le voir. Profondément, la maîtrise de la langue, on le voit avec le B2I en collège, on le voit avec toutes les expériences transdisciplinaires, s'exerce d'autant mieux qu'on sort aussi de notre discipline. C'est quand même un enjeu de se dire que la maîtrise de la langue pourra être abordée grâce à l'histoire des arts dans toutes les autres disciplines et peut-être une façon aussi de réfléchir à un autre lexique, celui de l'histoire des arts, donc réfléchir à son propre vocabulaire et à sa propre langue. La transdisciplinarité instaure une cohérence pour les élèves. Que toutes les disciplines puissent enseigner l'histoire des arts va nous amener à construire quelque chose en commun, à tous les niveaux. Et donc, pour les élèves les plus en difficulté, qui attendent peut-être un cadrage plus serré, qui attendent une cohérence, au lieu de juxtaposer des éléments, nous allons construire quelque chose. La spécificité de chaque discipline, bien sûr, elle est interrogée. J'ai entendu quand même ce matin ce qu'on a dit. Je crois qu'il y avait quand même le cliché du prof de lettres qui prendrait un tableau sans le regarder. pour illustrer simplement des notions. J'espère que je ne vais pas tomber dans ce travers, du moins j'essaie de lutter, mais je crois qu'effectivement la spécificité de chaque discipline se met en place grâce à cette comparaison. Et ce n'est peut-être pas être menacé, mais être défini, et défini clairement pour nos élèves, qui passent d'une heure d'histoire à une heure d'histoire des arts, éventuellement s'ils ont l'option, ce qui est le cas dans mon établissement, à une heure de français ou de lettres, suivant la dénomination. Enfin, adopter la position de l'amateur me paraît être un choix didactique passionnant. Enseigner Montaigne ou Proust, pour ceux qui l'ont étudié à la faculté, c'est se placer par rapport à ses élèves dans une position qui est une position peut-être un peu différente. Si je suis déstabilisée, je le suis aujourd'hui devant vous, c'est clair, je ne suis pas sur mon champ de maîtrise. Si on est déstabilisé, on est en position de recherche. On va se poser des questions, on va effectivement regarder l'œuvre. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant pour un enseignant. C'est un autre rapport avec sa classe qui s'instaure. Donc je vais me lancer et bien sûr après discuter de vos critiques. Je me lance à travers des choix. D'abord j'ai choisi peinture et littérature parce que je suis partie de la formule de Char, je terminerai par Char. Parce que cette interrogation est au centre du travail, qu'elle est conseillé déjà dans les programmes depuis très longtemps, que bien entendu il n'est pas question pour moi de vous dire je mets des projets en danse, en architecture, dans tous les arts, même le design, mais je trouvais qu'il était particulièrement intéressant d'interroger ce rapport entre les alliés substantiels, c'est-à-dire des alliés, mais autour de quelque chose qui serait de l'ordre de la pensée, de la réflexion, donc j'ai délimité mon terrain ainsi. Deuxième chose, je tiens à dire que ce sont des problèmes concrets, menés à partir d'expériences pédagogiques qui ont été dans les classes, qui ont eu lieu. Alors certaines, j'ai essayé de les poursuivre en regard de ces programmes, et je me pose beaucoup de questions, et donc tout n'a pas été mené, je vous le préciserai, mais tout a été fait dans mes classes. Voilà, deux secondes, deux premières, avec des secondes assez difficiles d'un public hétérogène dans la ville de Montpellier. Alors j'ai pris trois pistes. Enseigner l'histoire des arts pour comprendre les textes avec l'exemple de Proust. Premier cas, il me semble que la référence que l'histoire des arts en a parlé ce matin, c'est aussi un élément qui bloque la lecture. Et que, nous l'avons dit, et j'ai beaucoup d'élèves qui, bien entendu, ne connaissent pas ni les noms des peintres, nous en avons parlé, et ça me paraît être une situation pédagogique intéressante, de partir d'un problème de lecture pour introduire l'histoire des arts. Deuxième point, histoire des arts à partir d'un travail d'écriture. Enseigner l'histoire des arts à partir d'un mouvement littéraire sera le troisième point. Et puis enfin, un projet culturel où j'ai essayé de poser un travail à la fois en partenariat et puis qui mêle à la fois les trois disciplines dont nous avons parlé qui maintenant vont aller ensemble. Et puis, un travail aussi sur les sons et la poésie de Char. Donc, si vous voulez, pour pouvoir ensuite échanger, j'ai essayé de travailler sur un aspect qui n'avait pas été abordé, enfin, quand j'avais vu le programme, j'en avais discuté avec Corinne, c'est quand même cette idée qu'il y a un savoir de l'histoire des arts. Et que, encore une fois, ce va-et-vient, on en a parlé ce matin, un paradoxe permanent. Est-ce que c'est parce qu'on sait, parce qu'on connaît qu'on va vers les œuvres? Ou est-ce que c'est le choc avec l'œuvre? Entendons-nous bien. Comment devenir des moines n'ayant plus d'images sous les yeux quand nos élèves sont sur Internet en permanence? Et donc, il me semble, et ça c'est un choix profond dans ce travail, que la première chose à faire pour acquérir ce savoir, ça va être l'analyse aussi du savoir qu'ils peuvent trouver. Voilà, donc si vous voulez, j'ai choisi un angle d'attaque qui est celui du savoir en histoire des arts à travers les trois disciplines, acquérir un savoir, se l'approprier, deuxième temps, comment à la fois accompagner cet apprentissage, ce savoir, et puis alors ce qui me paraît extrêmement important, ça a été évoqué également, créer des espaces sociaux entre pairs où on échange, où on parle des tableaux, où on parle de la peinture. Parce que serait une culture qui ne serait qu'une culture imposée, une culture qui ne serait plus de l'ordre de l'échange? Donc, cette démarche, à la fois d'acquérir un savoir, de se l'approprier, de le transmettre, sera déclinée avec le plus de diversité possible. J'essaie de lancer des pistes en me disant que vous allez m'amener aussi à réfléchir sur le sens de mes propres pratiques. Alors nous commençons par Marcel Proust. Marcel Proust qui, dans ses portraits, utilise la peinture d'une façon tout à fait extraordinaire. Voilà, et donc, si vous voulez, je ne résisterai pas au plaisir de vous lire tous les textes, mais là ce serait peut-être gênant et on perdrait beaucoup de temps. Mais j'insiste quand même sur la portée humoristique de ce texte, avec la grosse tête de carpe de Monsieur de Palancy. Et la fin du texte qui rappelait à Swann, grand admirateur des vices et des vertus de Giotto, à Padoue, cet injuste à côté duquel un rameau feuillu évoque les forêts où se cache son repère. Nous voilà face à l'injuste. À partir de là, le travail avec les élèves commence. Pourquoi ? Parce que la lecture était arrêtée. Bon, je vous renvoie. J'ai fait une bibliographie, mais je pense qu'on la mettra en ligne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on discute des pratiques. Mais je vous renvoie à Catherine Tauveron, tous les travaux sur la lecture. S'ils ne connaissent pas Giotto et s'ils ne connaissent pas les références, ils ne peuvent pas comprendre le texte. Donc, l'enseignement aussi de l'histoire des arts, de ce qu'est ce type de tableau, est particulièrement important. Bien sûr, ici, la recherche est menée d'abord par les élèves et puis rectifiée par l'enseignant. Pourquoi ? Pardon, excusez-moi, je suis passée un peu vite. Ce que je voulais dire par là, oui, je vais faire. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on est bloqué sur vice et vertu, on va commencer par faire la recherche ensemble et ensuite arriver au tableau. Cette séquence peut s'inscrire à la fois en seconde sur le portrait de l'éloge au blâme ou en première sur le statut du héros de roman. Et là, on se rend compte que la comparaison, vous êtes d'accord avec moi, je la remets, mais fait un lien entre le texte et le tableau. Et d'où vient la réalité du personnage de son lien avec le tableau? Cet exemple de Proust m'a amené à détacher mes élèves de ce dont nous parlons depuis ce matin, la peinture reproduit la réalité. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le mimétisme entre les deux, sur le lien, mais bien entendu, Swann est un esthète, il regarde la vie à travers la galerie de tableaux qu'il connaît, et le détour par Giotto amène évidemment une réflexion sur le personnage Monsieur de Palancy. Bon, la description a été avec les élèves absolument intéressante. Alors, bien sûr, comme tout le monde, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter sur mes élèves. Ils sont très créatifs. J'ai 35 élèves de seconde, dont 22 maghrébins qui ont un accès à la langue orale très vivant et très clair. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont vu tout de suite le lien, bien sûr, avec les mandibules et l'aquarium, mais le lien dans le tableau avec, évidemment, toutes les lignes qui sont dressées, hein, tout ce qui est vertical, et puis ce détour, le personnage injuste ne regarde pas. Voilà, et ça, je trouvais que c'était intéressant pour la suite. Deuxième galerie de portraits, nous entrons dans l'idéalisation. Eh bien voilà, comment, quand on n'aime pas une femme, comment, quand on la trouve pas terrible, on va pouvoir transformer tout ça. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'œuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jétro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette ne lui avait pas d'abord inspiré. C'est-à-dire que l'œuvre d'art permet ici à la fois l'amour et puis de transformer la réalité. Et là, j'entre dans une démarche qui est complètement différente. Il me semble que j'ai quitté le prof de lettres qui illustre son cours par un tableau. Nous sommes à l'intérieur de ce qu'est une œuvre d'art. Dans son petit essai, il a écrit très jeune cet essai, au moment des plaisirs et des jours, sur Chardin et Rembrandt, Proust dénonce les deux illusions. Il dit que l'art n'est pas la reproduction de la réalité, mais l'art ne doit pas non plus transformer cette réalité. Évidemment, le troisième terme, vous le connaissez, c'est que c'est en devenant artiste, ce que pose bien Proust dans sa galerie de portraits, qu'on peut travailler. D'où, évidemment, le tableau. Là, je l'ai livré aux élèves sans documents, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, on a choisi le choc esthétique. il est clair que ils ont tous souligné le coup penché. Vous savez, il y a de magnifiques pages tout au long de la recherche sur ce fameux coup de cygne qui était interprété. Et puis également sur le fait que dans le tableau, les couleurs étaient extrêmement douces et mettaient en relation la femme avec les voiles, la féminité. La composition elle-même du tableau les a frappés et il a été très intéressant de remarquer qu'il y a une femme de dos devant et que le personnage de la fille de Jétro, bien sûr, est mis en valeur de face. D'où mon travail. Comment enseigner l'histoire des arts pour lire le texte de Proust ? D'abord acquérir un savoir, puisque la référence à la peinture bloque la lecture. La recherche du tableau évoqué fait surgir le sens. Et ensuite, on passe au travail d'histoire. Parce que si nous nous en tenons à ce qui nous est demandé, il ne s'agit pas simplement de regarder un tableau, il s'agit de travailler sur l'histoire des arts. Et pourquoi c'est important ? Parce que Swann est un spécialiste de peinture italienne et que la peinture italienne a une histoire. C'est bien au moment de Proust qu'on découvre, qu'on redécouvre, j'en reparlerai, de ce statut de la lecture de la peinture italienne, qu'on redécouvre le charme des Botticelli, le charme de Giotto, et qu'ils sont ainsi relus. Et là, le texte de la recherche porte les traces de cette réhabilitation, entre autres de Botticelli. J'avais des extraits de textes pour leur montrer que l'histoire des arts est au cœur du roman, puisque c'est l'essai que Swann n'écrira jamais parce que c'est un historien d'art raté. Voilà. Troisième point, comment transmettre ce savoir ? Et là, ça a été un travail extrêmement intéressant. Constitution par l'élève d'un carnet de bord. Évidemment, chez Proust, moi j'avais 25 portraits qui faisaient appel à un tableau, c'était facile. Hein. Donc chacun a pris un portrait et est allé chercher un tableau et a composé le point de départ d'un carnet de bord. Je vous rappelle qu'il y avait ces indications hein, dans les textes et que je pense qu'il est extrêmement important de travailler aussi sur la mémorisation, la transmission et la mémorisation par l'appropriation. Et ce premier exemple de carnet de bord a été très intéressant. Alors, il est clair qu'ils ont copier-coller ce qu'ils ont sorti sur Internet, que la qualité de la reproduction est mauvaise. Entièrement d'accord, ça on va le dire tout de suite. Mais ils ont mémorisé leurs références et ils ont choisi dans les portraits de Proust, qu'évidemment j'avais sélectionné au préalable, un tableau et ils ont conduit le même travail et s'est carné en silence. C'est pour ça ce matin on a parlé du silence. On circulait avec la possibilité d'écrire un commentaire, parce que vous comprenez bien qu'un professeur de lettres voudrait essayer de les faire écrire le plus possible. Donc, commentaire sur l'autre page du carnet, et on a pu ainsi échanger sur un tableau. Deuxième expérience, j'espère qu'on les voit bien, parce que ce sont deux personnages extraordinaires, Diderot bien sûr, et puis acquérir un savoir en histoire des arts. Là, j'ai commencé en sens inverse, c'est-à-dire par la partie historique. Qu'est-ce que les salons ? Est-ce que c'est à peine peut-être de vous rappeler, mais je trouve que c'est fascinant. Du point de vue historique, ce journal qu'écrivait Grimm avait pour but, on demandait à Diderot de décrire les tableaux pour que les aristocrates prussiens puissent acheter, choisir comme une sorte de catalogue dans les salons parisiens un tableau pour orner leur demeure. Donc ce qui a été très intéressant dans cette première étape, ça a été l'étude comparée du tableau et du texte que je vais vous montrer bien sûr, et je les ai fait travailler sur la dimension historique. Qu'est-ce que le journal de Grimm ? Qu'est-ce que les salons ? Et puis, quel lien peut-on établir entre cette démarche et celle de l'encyclopédie ? Deuxième temps, là, s'approprier un savoir. Il y a eu une lecture analytique du texte de Diderot et je leur ai demandé d'en dégager la structure. Je vais vous le montrer comme ça, c'est pour que vous compreniez la démarche. J'ai inversé à chaque fois pour varier un peu. Troisième point, comment créer une socialisation ou un échange à travers l'écriture. Je leur ai demandé de reproduire la structure d'historien d'art de Diderot et d'écrire un éloge sur un tableau de leur choix. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point. On a parlé ce matin Bon, évidemment, j'ai beaucoup travaillé autour de ce thème avant de vous le présenter. Je suis frappée par l'importance de la lecture de Diderot dans l'œuvre notamment de Lévi-Strauss. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais il y a 45 pages de Lévi-Strauss en lisant Diderot, critique d'art. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, de la lecture, je vous rappelle que Lévi-Strauss, regarder, écouter, lire, est un... et a pensé sa relation à l'art, mais il est partout représenté, Diderot, comme quelqu'un qui a changé les choses. Alors pourquoi ? Voici le texte de Diderot qui est... Là, c'est le prof de lettres qui parle, on a l'histoire, et on va voir l'histoire de l'art. « Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j'ai besoin de me faire des yeux. Pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à garder ce que la nature m'a donné et bien m'en servir. » Première étape, je demande donc à mes élèves de reproduire la structure et de comparer la peinture du tableau qu'ils ont choisi avec d'autres tableaux. Ils ont le droit, bien sûr, en module de me montrer leur écrit, de me montrer leurs recherches, j'ai travaillé au CDI, mais ils ont réussi à écrire ce petit paragraphe un peu plus développé. Deuxième paragraphe, c'est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine, c'est que ces olives sont réellement séparées de l'œil par l'eau dans laquelle elles nagent, c'est qu'il n'y a qu'à prendre ces biscuits et les manger. Le présentatif, qui veut une deuxième étape, qui serait celle d'une description, mais attention, la description, elle est de l'ordre de l'encyclopédiste, je vous rappelle l'œil, et vous allez voir l'eau du bocal, hein, c'est-à-dire une description qui se veut précise et rigoureuse. Il me semble que éduquer les élèves aussi à l'observation précise est une façon d'entrer dans le tableau par une appropriation. Hein. Et puis l'éloge du tableau qu'ils ont choisi, en reprenant la même structure avec le nom de leur peintre, ils ont pris dans l'ensemble, bon, c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de tableaux qui étaient au musée Fabre à Montpellier, ce que je comprends, puisqu'ils ont préféré prendre les tableaux qu'ils avaient vus. Voilà, il y a eu quelques provocations quand même. Vous le comprenez, c'est normal. J'ai eu l'origine du monde. Ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu bois sur ta palette, c'est la substance même des objets, c'est-à-dire hein, toujours un travail de rhétorique avec l'opposition. Pourquoi ça me paraît intéressant ? Parce que les élèves que j'ai dans ma classe de seconde notamment, en première c'est plus facile, mais dans une classe de seconde où les élèves sont en difficulté, où on ne parle pas d'art chez eux, si je ne donne pas des outils pour écrire sur le tableau, comment voulez-vous qu'ils se mettent à écrire ou à parler sur un tableau ? Alors que là, ils se sont glissés dans ce modèle de Diderot. Bon, peut-être pas très très bonne, mais vraiment on voit bien l'eau dans le bocal, on voit bien la nature morte, et on a cette idée, encore une fois, que la disposition des objets, et là on avait mené un travail bien sûr en liaison avec mon collègue d'histoire des arts, Laurent Grison, que vous entendrez demain, lui de son côté avait fait une co-animation et avait de son côté amené aussi tout un travail sur la disposition des objets dans le tableau. Alors, pourquoi partir de l'écriture ? Parce que l'écriture permet de construire véritablement ce savoir de l'histoire des arts. Alors voilà, je voulais vous présenter donc un troisième point. Comment mettre en relation un mouvement littéraire, le réalisme, et puis, bien sûr, une peinture. Mais nous sommes bien d'accord. Dans ma séquence, je pars du tableau. Bon, extraordinaire tableau pour un prof de lettres, parce que je trouve que représenter des livres avec les titres, et puis ces livres-là, hein, parce que Bel Ami de Maupassant, c'est au cœur de l'enseignement de lycée. Et bon, Germinie de Hackerte, un peu moins, hein, c'est pas... Petits extraits, on étudie les préfaces. Première question, vous allez le voir dans ma séquence. Pourquoi Van Gogh représente-t-il des livres ? Et ça devient passionnant. Le débat, là, devient passionnant. Parce qu'immédiatement, bien sûr, je leur ai demandé, mais vous allez aller chercher déjà dans la biographie de Van Gogh, pourquoi il représente des livres ? Est-ce qu'il lisait ? Évidemment, j'ai pris le sujet en or, puisque... Dans ses lettres à Théo, il dit tout. Il raconte à quel point c'est un grand lecteur. Bien sûr, il a lu Bel Ami, il a lu Zola. Il multiplie les comparaisons entre peinture et littérature dans sa correspondance. Plus fort que ça, dans sa biographie, il a rencontré Maupassant. Et il raconte je ne vous donne pas les détails des destinataires. Et là, les élèves ont très bien trouvé. Bien sûr, je prépare la documentation au CDI, je guide, mais c'est eux qui trouvent, entre autres. Et sur Internet, je les ai amenés à trouver la lettre à Théo, ça a été immédiat. C'est toujours pareil, si vous indiquez en module une recherche et qu'on la guide, ça va très très vite. Vraiment, parce que je ne veux pas perdre sur un module de 50 minutes trop de temps en donnant une trop grande ouverture, en disant que je donne un parcours à mener. Et donc, ils ont trouvé, bien sûr, la lettre à laquelle, passionnante, Van Gogh raconte comment Maupassant est allé voir les peintures de Manet. C'est-à-dire, nous avons Van Gogh regardant Maupassant aller au musée. Voilà, on l'a trouvé, ça a été une perle dans notre travail de recherche. Analyse du tableau, le jaune, attention. Cette statuette, la façon dont elle est présentée, le côté vertical, le lien avec les fleurs, tout ce que le jaune et le bleu de Van Gogh, nous avons trouvé chez les historiens d'art des pages remarquables qui expliquaient ce choix. Et ici, il est sur les livres, bien sûr. Donc, à partir d'un groupement de textes en seconde ou l'étude Bellamy en première, l'étude du mouvement réaliste, observation, analyse du tableau de Van Gogh, pourquoi peint-il des livres, ces livres-là. On a fait la recherche documentaire, bien entendu. Et là, je voudrais en venir à un travail qui me paraît très important. C'est comment on peut, en histoire des arts et en littérature, définir par l'intermédiaire de ce travail ce qu'est la position de l'artiste. Et je m'appuie sur les travaux de Minguenaud sur le contexte de l'œuvre littéraire. À ce moment-là, il existe ce qu'on appelle le salon des refusés. Et la figure de l'artiste rejetée par la société bien-pensante se constitue. Et Minguenaud a un mot très juste. Il dit que l'artiste se constitue en tribu. Et si Van Gogh représente Maupassant, Germini de la Kertész, c'est-à-dire les frères Goncourt, et dans sa correspondance Zola, c'est pour se trouver des modèles, se trouver une appartenance, dire ce qu'est un artiste. Puisque on rejetait ce qui existait et qu'on voulait se construire quelque chose. Et donc construire l'image de l'artiste, c'était se constituer en tribu. Inversement, Zola, dans l'œuvre, avec toutes les, encore une fois, peut-être méconnaissance de Zola, qui n'a peut-être pas tout compris chez Cézanne, avec Zola se constitue en ami de peintre contre une société, contre un fonctionnement de l'art. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, nous avons ces alliés qui créent finalement, définissent, délimitent l'histoire de l'art par un lien entre les deux arts, et d'où la figure de Van Gogh. Dans sa correspondance, c'est très net, hein, il dit bien que c'est une façon, ce sont ses amis, et je vous signale que j'ai même trouvé des phrases où il dit « j'aimerais peindre comme Maupassant écrit ». Là, chaque élève a présenté et analysé le tableau à l'oral. C'est-à-dire que dans le cadre de la préparation aussi à l'oral et puis de cette appropriation, j'ai demandé aux élèves de présenter le tableau et on a en aide individualisée, hein, donc ils sont que 8 en seconde à ce moment-là, j'ai demandé à tous les élèves les plus faibles à l'oral, parce que je voulais tester mon dispositif aussi, de présenter ce tableau à l'oral. On a comparé les présentations et on a analysé les présentations. Notre but dans ce travail, c'est aussi de donner aux élèves les plus défavorisés l'accès au PowerPoint, l'accès à la présentation de l'image, du texte, de l'histoire des arts. Et on avait réussi, puisque le texte avait été fait en classe, à permettre, avec l'aide de mon collègue d'histoire, aux élèves de présenter vraiment une présentation un peu comme celle d'aujourd'hui du point de vue technique. Et là, j'ai introduit un autre tableau, Nature morte avec la Bible. Van Gogh vient de perdre son père. On ne rappelle pas, pasteur. Il a essayé de devenir à son tour ecclésiastique, il a échoué. Et là, vous avez ce petit livre jaune qui est un livre de Zola qui va annoncer une toute autre pensée et cette énorme Bible ouverte. Voilà. Donc, bien entendu, les élèves ont surtout réagi au rapport père-fils avec les circonstances que l'on connaît, l'admiration. Moi, c'est moi qui ai plutôt expliqué le lien avec la religion et ce que signifiait aussi cette chandelle éteinte, ce changement, cette transformation. Le livre est racorné, la Bible est magnifique. Et puis, nous avons trouvé, grâce à Internet, bien sûr, le magnifique tableau de Rembrandt où nous avons une énorme Bible posée. Et là, les élèves tout seuls, bien sûr, j'avais fait la recherche au préalable, mais les élèves tout seuls m'ont dit, évidemment, il y a là un père et un fils. C'est venu. Et c'est particulièrement intéressant du point de vue de l'histoire des arts, parce que ça nous amène à poser le lien avec les livres, le lien avec la littérature, en lien non seulement avec l'histoire, mais avec l'histoire des arts et même avec la biographie. Puisque, je vous le rappelle, vivant avec une femme, disons, de petite vertu, il avait coupé les liens avec son père, il défend Zola et il défend Nana, aussi pour des raisons biographiques, face à la Bible et face à ce qu'elle représente. C'est-à-dire que ce tableau m'a permis de faire un travail qui donnait du sens, bien sûr, et qui, pour moi, interrogeait cette représentation par la peinture et, bien sûr, le lien avec l'histoire des arts. Alors, dernière expérience, puis après on pourra bien entendu échanger. Partir du plus difficile. Pense que les fragments des feuillets d'hypnose sont les textes les plus résistants, dirait-on, dans l'analyse littéraire. Il s'agit ici d'acquérir un savoir par la lecture analytique du fragment 178 des feuillets d'hypnose. Et à partir de là, de comprendre ce lien avec l'histoire. Bon, je vais peut-être faire après un retour en arrière. Attends, excuse-moi. Voilà. Parce que je pense que c'est bien que vous ayez le texte. Le contexte est le suivant. René Char est enfermé à ses restes. Je vous rappelle qu'il est déjà tombé, qu'il a fait une chute, que la situation est grave, que les parachutages d'armes se font la nuit, parce que c'est intéressant pour mon texte. Et donc, il pique sur le mur une reproduction en couleur, celle du prisonnier de Georges de la Tour. Et voici comment il en parle. Les mots qui tombent de cette terrestre silhouette d'ange rouge sont des mots essentiels, des mots qui portent immédiatement secours. Quels sont ces mots? Les mots du texte ou les mots du tableau? On emploie encore la métaphore du langage pour parler du tableau. Alors je vais revenir là. C'est moi qui suis, pardon. Voilà. À travers le tableau, c'est la situation du résistant, c'est la situation personnelle de Char, c'est la situation de la poésie, c'est la situation du peintre. Dans une lettre à Lélie, je vous rappelle que Lélie était juif et que c'est Char qui lui a permis de se cacher dans un autre village de Provence. Il lui dit que la poésie est désormais la chandelle. Il reparle de ce tableau. Et donc, vous avez ici un lien entre histoire, histoire des arts et littérature. D'où la séquence qui me paraît, alors là, bon, je l'ai mené dans le cadre de l'année Char. Je vais essayer de vous faire écouter le CD. Il y a eu un travail de plusieurs enseignants de la France entière qui a donné lieu à un DVD. Mais moi, je suis allée plus loin parce que quand je suis tombée sur ce texte, sur ces textes de Char, j'ai eu envie d'aller plus loin avec de la Tour. Donc, je vous explique comment on a travaillé. Cherchez pourquoi Tully a écrit La Tour est le triomphe de l'histoire de l'art et sa justification. Je vous rappelle que Georges de la Tour était un peintre inconnu. Que c'est l'histoire de l'art, dit Tullier. On a utilisé Découverte Gallimard, on a utilisé toute une série d'articles hein, qui sont faciles à trouver sur Internet dès qu'on tape Georges de la Tour. Et on se rend compte qu'à l'époque où, en 1935, René Char va voir l'exposition sur les peintres de la réalité, le tableau s'appelait Le Prisonnier, alors que maintenant il s'appelle La Femme de Job. Et que donc le titre du tableau évolue. La vision du peintre évolue, les œuvres qu'on lui attribue évoluent, et les lectures évoluent, parce que c'est un peintre du XVIIe siècle, et que ce qu'on dit au XVIIe siècle, c'est pas du tout ce que les réfractaires, autre nom bien sûr pour les résistants, pouvaient dire en arrivant dans la cachette de René Char. Pour s'approprier un savoir, ici j'ai mené un travail, il y a 7 textes très courts, très faciles du point de vue de la mise en page, ils sont sur un A3, 7 textes de Char sur de la Tour. Et donc, pour transmettre ce savoir, Il y a eu élaboration d'un spectacle audiovisuel et présentation à une autre classe. Alors, pour terminer, je voulais faire entendre un petit bout du CD.
Si c'était que tu t'es promis à toi seul.
Ton contrat. Là, et tiens, contrat. Vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres.
Là est ton contrat.
Ton contrat.
Ce que tu t'es promis.
Tiens. Là est tes autres. Ce que tu tiens vis-à-vis des autres. Ce que tu t'es promis à toi seul. Là est ton contrat. Tiens vis-à-vis des autres. Ce que tu t'es promis à toi seul. Là est ton contrat. Tiens, vis-à-vis des autres, ce que tu t'es promis à toi seul.
Tous les choix que tu t'es opéré après, lecture analytique, et celle-là, cette phrase, elle nous plaisait, on l'a mise en valeur.
Je n'écrivais pas de poèmes. Tiens, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres, ce que tu t'es promis à toi.
Ouais, je crois que, bon... Ou alors vous pouvez m'en mettre peut-être la piste 3, là, la troisième, pour voir ce que ça donne. Ah, mais pardon. Voilà, ou la 4, voilà, 4, voilà, juste pour ça, mais...
58.
Voilà, c'est...
Voilà. 147.
C'est les chiffres des fragments.
Mon bras plâtré me fait souffrir. Le cher docteur Grandsec s'est débrouillé à merveille malgré l'enflure. Chance que mon subconscient ait dirigé ma chute avec tant d'à-propos. Sans cela, la grenade que je tenais dans la main, dégoupillée, risquait fort d'éclater. Chance que les fêles gendarmes n'aient rien entendu grâce au moteur de leur camion qui tournait. Chance que je n'ai pas perdu connaissance avec ma tête en peau de géranium. Mes camarades me complimentent sur ma présence d'esprit. Je les persuade difficilement que mon mérite est nul. Tout s'est passé en dehors de moi. Au bout des 8 mètres de chute, j'avais l'impression d'être un panier d'os disloqué. Il n'en a presque été rien, heureusement.
156.
Nuit. De toute la vitesse du boomerang taillé dans nos os et qui siffle.
Serons-nous semblables plus tard à ces cratères où le volcan ne vient plus et où l'herbe jaunit sur sa tige?
Je vois l'homme.
Et la semaine dernière, j'inspectais dans un lycée de Lyon, de Vaux-en-Velin, donc je suppose que ce sont un peu les mêmes élèves. Et je suis vraiment admirative justement sur ce que vous arrivez à faire en termes justement de texte. Parce que je regardais le dernier texte, la dernière phrase me semblait quand même particulièrement compliquée. Et donc je comprends très très bien tout le travail qu'il y a derrière. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous nous montrez, c'est que nous, par exemple, les professeurs d'histoire et géographie vont vous dire qu'ils sont des démarches qu'ils ont l'habitude de conduire. Sauf que, et c'est ce que vous avez bien montré, c'est que justement, l'œuvre d'art n'est pas instrumentalisée. Mais que justement, il y a tout ce travail autour de l'esthétisme, la beauté, la production d'élèves, et vraiment ces mises en relation entre le texte et les tableaux, vraiment, c'est moi je trouve ça très intéressant.
Oui, donc dans ces, bon, je suis un peu décalée. Là, c'est la littérature, c'est la peinture. Dans les deux choix, enfin, si j'ai bien compris ce que vous avez fait, parce que peut-être que c'est un peu rapide. Et c'est pas facile de rentrer dans toutes les subtilités de la démarche que vous avez mise en œuvre. Partir du texte qui parle de l'œuvre et de la réception de l'œuvre, ou partir de... Dans l'autre exemple, c'était partir de l'œuvre,
oui.
Et ça renvoyait au texte.
Oui, hein, pour Van Gogh, c'était ça.
C'était ça dans les deux cas. Enfin, c'était ça votre choix.
Et, dans tous les sens, le va-et-vient,
dans tous les sens,
finalement.
Oui. Ouais. Donc il fallait qu'il y ait ce jeu de miroir direct quand même.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous avez tentées ou essayées?
Alors,
qui ne mettaient pas justement ce lien de manière aussi chevillée entre ces allusions directes?
Alors évidemment, là j'ai choisi de vous parler, c'était le but d'aujourd'hui, hein, allier substantiel. Bon, mais justement, puisque vous parlez de la musique, vous savez qu'avec Proust, on a tout ce qu'il faut sur tout. Donc, c'est clair. Donc, la sonate de Vinteuil, par exemple, très intéressant à étudier du point de vue de la musique aussi et de l'histoire des arts. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a les clins d'œil Il fait allusion à certains musiciens qui sont évoqués. Et puis, il y a la réception. Je rappelle que la sonate de Vinteuil, c'est l'hymne à son amour. Hein, c'est le tube de l'été. C'est-à-dire, oui, mais c'est très important aussi pour la réception subjective. C'est-à-dire, c'est la petite musique qui fera entendre désormais l'amour. Premier point. Deuxième point, je vous rappelle l'écoute de Wagner dans le salon des Verdurin, ce que ça donne. Les rougeurs de Madame Verdurin, qui n'y comprend rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon là j'ai fait des choix puisque j'avais une thématique précise, mais je pense qu'on pourrait, du point de vue de la démarche, choisir vis-à-vis de la musique, tout à fait construire un travail tout à fait intéressant également. Hein. Et, bon là on l'a pas bien entendu, je ne sais pas pourquoi, mais un élève qui jouait par ailleurs de la guitare et qui voulait faire l'option musique a voulu intégrer dans notre travail sur les fragments d'hypnose, parce que on voulait rendre le bruit des mitraillettes, des chiffres 178, 169, voilà, on voulait rendre ça, et lui a introduit de la musique à un moment. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est d'arriver au pari de pratiquer quelque part aussi, même si c'est très modestement, on est d'accord, hein, voilà, mais qu'il y ait, il peut y avoir aussi une pratique modeste, artistique, intégrée à ce travail. Voilà, je pense que par rapport à la musique, ça peut peut-être répondre à ce que vous demandiez. En même temps, je suis aussi à l'écoute de mes collègues, et bon, Laurent Grison devait aller dans l'autre commission. Ce qui m'a frappé quand il est intervenu dans la classe pour l'analyse du tableau, c'est que les élèves m'ont dit ils parlent une langue. Alors, j'aurais dit caractériser cette langue. Quelle langue parle M. Grison ? Une langue bizarre, étrange. Et donc, non, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi ce vocabulaire et dans lequel je ne me reconnaissais pas forcément. Et quand vous avez dit tout à l'heure par rapport à la démarche, quand on inverse, c'est-à-dire quand on part de l'analyse du tableau pour aller vers les textes, on fait le trajet dans un sens. Et pour moi, c'est très important pour la maîtrise de la langue. Parce qu'après, quand eux vont présenter le tableau, j'exige qu'ils reprennent le lexique, je dirais, technique, intéressant, opérationnel, comme un outil, pour le tableau, est-ce qu'on est d'accord? Et donc, ce trajet, c'est pas simplement pour varier mes pratiques et pour leur permettre de ne pas s'ennuyer. C'est aussi une façon de construire l'appropriation de ce lexique. De la même façon qu'en chimie, en physique, ils ont bien des mots précis pour désigner. On n'avait pas surchargé. Mais je pense que c'est important. Si on choisit la transdisciplinarité, il faut aussi respecter, je dirais, les lexiques techniques des uns et des autres. Donc, si je travaillais avec vous, hein, il y aurait aussi, alors, les métaphores peut-être d'un côté, pour parler de la musique avec, pour Proust, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, mais également le respect de votre vocabulaire technique, comme pour les historiens, la position de Charles, ce qui s'est passé, ce lien avec le clair-obscur. J'ai pas tout tissé parce que je voulais, c'était un atelier, donc il est évident qu'il y avait un lien entre le tableau et la position de char que le professeur d'histoire avec moi avait mis à jour. L'autre chose que je voulais introduire aussi par ce travail, c'est qu'il me semble que qu'en lettres, il est beaucoup plus facile pour nous de nous mettre aussi à la disposition de l'histoire des arts. Parce qu'on peut essayer de tisser des liens multiples. Voilà. Et cette notion de carrefour dans ma discipline, encore une fois, il ne s'agit absolument pas de renoncer à mes exigences et de lecture et d'écriture et de maîtrise de la langue, mais c'était plus facile dans ce sens-là. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai écouté. C'est moi qui ai écouté d'abord mes collègues, et après, parce qu'on est là pour construire du transdisciplinaire. Et moi, après, j'ai pu intégrer ma démarche, parce que je pense que dans l'autre sens, c'était plus difficile. Donc, vous voyez, par rapport à la question que vous posez, c'est-à-dire, est-ce que c'est le texte d'abord? Est-ce que moi, j'ai l'impression que c'était opératoire, que l'enseignant de français soit à l'écoute de ses collègues, et puis, après, construise, et non pas d'imposer mon parcours. Voilà. Même si, finalement, j'ai quand même orchestré et c'est moi qui l'ai mené plus à fond parce que, par exemple, ça intervenait pour une classe de première, le travail sur la guerre en ECJS, je ne me trompe pas, en première, hein, c'est ça, pour l'histoire. Et donc, le collègue, après, a fait tout un travail sur l'engagement dans la résistance. Donc, il a pu prolonger sur un autre aspect. Mais il a quitté un peu la dialectique d'histoire des arts, c'est-à-dire comment on peut lire en 44-45 différemment l'œuvre de Georges de la Tour. Voilà. Et l'enquête, bon, c'est amusé, hein, parce qu'après, l'histoire de Georges de la Tour, ça m'a passionnée, je suis devenue... parce que, avec les élèves, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même alors des tableaux perdus, retrouvés, des tableaux qui n'étaient pas attribués à Georges de la Tour. Donc, vous avez entendu ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que moi, je ne savais pas tout ça. Et c'est ça qui est important. C'est que j'étais en recherche avec eux. Et, bien sûr, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant, mais ça a créé une situation de classe complètement différente. Et il y a même eu une autre perle, hein, puisque vous savez, les enseignants, quand ils commencent à parler de leurs élèves, c'est fini, je vais m'arrêter. Il y a eu une autre perle, c'est que j'ai un élève qui est arrivé avec un manuscrit de char. Sa grand-mère a fait partie... Non mais, ça fait partie des perles de la vie. Sa grand-mère, vous savez que pendant ce... Parce que cette femme-là, attendez, elle est incarnée, c'est un ange rouge, hein, c'est pas un ange... idéalisé. Et donc, la grand-mère de cet élève avait été copine avec la fille de sa compagne d'alors à Céreste et avait une lettre de char qui lui disait, tu te souviens quand tu étais petite, sur cette situation-là. On a fait une expo, bien sûr, au CDI pour montrer notre lettre. On était très très fiers. Les autres élèves du lycée n'ont pas apprécié peut-être à juste valeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est rentré véritablement dans une appropriation et dans une situation parce qu'il y avait eu, de ma part, une sorte de retrait. C'est pour ça que je crois que ce matin, on l'a dit, le fait de ne pas être effectivement, j'ai tout à apprendre et d'être à l'écoute aussi de mes collègues, m'a permis d'avoir une autre position par rapport à ma classe. Et d'où le va-et-vient.
Au moment où Char accroche sa reproduction à la de Georges de la Tour, et donc à ce moment-là, il est intitulé le prisonnier dans oui. l'histoire de l'art, on n'a pas attribué la femme de Job, mais est-ce que quelque part il sait que c'est Job?
Non.
Non.
Non. Et dans les
parce
lettres...
qu'en même temps, voilà, parce que Job c'est quelque chose.
Ah, je tout dire, à oui, fait.
Donc,
Et donc après, on relit le tableau, en fait.
Oui.
Et il y a même un titre qui avait été proposé, Les railleries de la femme de Job. Donc encore une troisième lecture. Bon, en même temps, n'oublions pas, Georgette, la première femme de Char, était d'origine juive. Cette maigreur, ça les élèves l'ont dit, hein. Cette maigreur, je veux dire qu'il y avait aussi dans cette image du martyr, en fait, il y a eu une autre lecture par les élèves, coordonnée avec mon collègue d'histoire, hein, mais qui était aussi intéressante, parce qu'il l'avait bien en tête, il avait d'un côté caché sa femme, caché cet ami Gilbert Lely, et donc, bon, il y a beaucoup de textes de Char qui indirectement parlent aussi de ce qui s'est passé, de la Shoah, enfin, il l'aborde. Hein. Donc, enfin, l'image de la pauvreté, du martyr, du prisonnier, l'ortie sèche, hein, avec ce que ça représente aussi. Hein, voilà, donc, et puis quand même, reconnaissance à René Char, hein, qui nous a sorti des ténèbres nazies, enfin, je cite de mémoire, là, cette phrase-là, très forte, éclaire tout le poème, et dites-vous aussi que ça a été la clé de l'ensemble du recueil. Parce que du coup, et c'est là que je veux revenir sur ma préoccupation, sur maîtrise de la langue et histoire des arts, le travail sur le tableau, par son côté symbolique, permet à des élèves en difficulté de dire leurs mots, de prendre la parole. Elle est gonflée, la robe, vous l'avez vu, ils m'ont dit tout de suite, elle est enceinte, elle porte la vie, bien sûr. Elle symbolise la poésie, alors que lui représente la mort, on est bien d'accord. Et à partir de là, on a pu lire les fragments d'hypnose, parce qu'à partir de là, on a même pu, parce que pour les lire, il faut regrouper les mots ensemble. Si vous avez vu le texte de Char, regrouper les mots, c'est donner du sens, et c'est très difficile. Et le contexte historique et la lecture de Georges de la Tour nous a permis d'entrer dans les feuillets d'hypnose. C'est-à-dire que le prof de lettres, là, dans ce dernier exemple, je répète, il est à l'arrière. Parce que moi, je ne pouvais pas leur donner les feuilles d'hypnose et débrouillez-vous. On ne comprend rien. On n'y comprend rien si on entre comme ça. Et bien sûr, je me suis amusée avec ma petite chandelle et ma lumière. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'a éclairée, elle m'a menée par le chemin. Voilà. D'où l'idée, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi le mettre au début à ce moment-là, ben, je pense qu'il faut réfléchir à ses choix et que c'est très important. donner le texte d'abord, c'est faire un choix. Si on donne pour Van Gogh, ils connaissent tous Maupassant. Je voulais entrer par le tableau, ce tableau qui est dans la collection du Kröller Museum. C'est un musée qui est à 50 km d'Amsterdam et qu'on a trouvé, parce que là, je voudrais quand même qu'on redise par rapport à ce qui a été dit ce matin. Bien sûr, ce n'est pas la qualité de l'œuvre, je trouve vraiment fondamental de les amener au musée, l'exposition Courbet. Tout à fait d'accord, mais quand même, quel outil Internet ? Comment aller trouver ce tableau au CDI du lycée Jean Monnet à Montpellier alors qu'il est dans un musée privé à 50 km d'Amsterdam et qu'il n'est pas exposé dans... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu dans de multiples expositions. Mais donc, pour nous, c'est quand même aussi cet outil critique parce que là aussi, on a trouvé des bêtises. Et ça, je l'avais fait exprès aussi. On a trouvé des bêtises aussi sur Internet qu'on a dû analyser. Je voudrais revenir sur cet aspect que le travail de recherche documentaire à la fois... pour l'historien, pour l'enseignant de lettres et pour l'historien d'art, il doit recouper, critiquer, revenir. Entre Wikipédia et ce qu'on a pu trouver après, c'est un univers. La pauvreté de ce qu'on avait trouvé au début, et puis après, notre enquête documentaire. Voilà, nous ne pouvons pas faire l'économie de ce qu'ils ont sous les yeux tous les jours. Voilà. Donc, ils en étaient même à me dire que vraiment, j'avais trouvé un sujet de jeu vidéo avec la guerre. Le texte et le tableau, ils m'ont dit, on pourrait faire un jeu vidéo. Passe à soi.
Moi, je voulais revenir sur la remarque de tes élèves là qui disent Monsieur Grison, là, il parle bizarre, parce que dans un des recueils, alors je sais plus, c'est le collègue
d'Histoire des Arts qui interviendra demain et qui s'occupe de l'option dans l'établissement. Donc, j'ai essayé. De travailler quand même, de le faire intervenir pour qu'ils entendent aussi. Enfin, encore une fois, je n'ai pas les compétences, donc je vais chercher. Je crois que c'est ça l'idée. Puisque je ne connais pas, enfin, je n'ai pas toutes les compétences en histoire des arts, on a créé un dialogue. Voilà.
Voilà, et donc j'imagine qu'il a employé un vocabulaire plus technique de commentaires, de la forme, etc. Bon. Et ça me fait penser à ce que disent des historiens de l'art, où il va très loin, parce qu'il dit finalement que quand on se trouve devant un tableau, c'est à peu près comme si on entendait une langue étrangère. Donc ça va très loin. Et en même temps, le problème, c'est que depuis ce matin, ce qu'on dit, ça rentre en contradiction avec parfois des choses où on dit en même temps expérience avec l'œuvre, au sens où on met en contact avec l'œuvre, et quelque chose peut-être se passer dans, et puis c'était le sens de votre remarque, en disant, voilà, c'est complémentaire, on est dans ce va-et-vient entre... On met des élèves en présence d'œuvres, peut-être parfois dans le silence, et en même temps, si cette œuvre parle, c'est presque comme une langue étrangère, c'est évident que si on ne leur donne pas un vocabulaire, un lexique, des repères et des tas de choses, cette rencontre, il va peut-être pas se passer, ça va peut-être pas donner grand-chose. Donc c'était pour rebondir sur ce... Voilà, M. Grison,
oui, mais les choix après, si vous voulez, mon idée, c'est que c'est un guidage fort qui permet à l'élève, après, de faire des choix. C'est-à-dire qu'ils ont choisi à l'intérieur des portraits de Proust. Ce qui est passionnant, c'est que vice et vertu, chaque personnage de Proust représente à un moment de la recherche un élément positif qui serait de l'ordre de la vertu ou du modèle. Et puis, vous le savez bien, ce qu'on appelait des vices. D'accord. Et donc, les élèves ont choisi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il est très difficile pour les élèves en difficulté de choisir directement, c'est-à-dire d'entrer dans un musée et d'avoir le choc dont nous avons parlé ce matin. En tout cas, pour mes élèves, c'est très difficile. Mais quand on a balisé, quand on a préparé les choses, ils ont très bien choisi et défendu. Moi, ce que j'aime, c'est celle qui c'était la charité, vous savez, c'est la servante de cuisine. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est un tel, c'est... Et ils ont défendu. Et là, pour moi, l'enjeu est gagné. Parce qu'à partir de là, la culture, ils sont capables de parler de Giotto, de Botticelli, encore une fois, parce qu'ils l'ont choisi. Mmh. Voilà. C'est vrai que ça existe, des rencontres extraordinaires, ou avec écrivains, ou avec artistes, ou l'élève. Mais un élève dans la classe est transporté par cette rencontre, oui, ou par ce tableau, par ce choc.
On est d'accord.
Mais moi, j'en ai 35. Mmh. J'en ai 35. Et il y en a un qui a le choc.
Et parfois, c'est le plus faible. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bon, nous, on a ce fameux... Bon, je suis allée voir l'expo Courbet, bien sûr, à Montpellier, et on a ce fameux Courbet à Palavas, vous savez, sur la plage. Oui, là, oui. J'ai un élève qui est resté devant ce tableau, il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Voilà, mais pour créer...
Parce qu'il était de Palavas, en fait.
Peut-être. Mais, enfin, je vraiment, c'est une hypothèse de travail et c'est vraiment le résultat d'une observation au fil des projets que j'ai pu mener. S'il n'y a pas aussi une aide pour arriver à l'œuvre, comment se mettre à son tour à s'approprier les œuvres? Parce que c'est quand même aussi notre objectif, en tout cas transdisciplinaire.
Merci beaucoup. Donc oui, Philippe Galeïa-Hyper d'Art Plastique. Je voulais poser une question sur la nature de l'ensemble du travail que vous avez présenté. Une question, je ne voudrais pas qu'elle soit vécue comme perfide. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ce travail que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez eu en tête de participer à un projet d'histoire des arts? Autrement dit, si vous voulez, je peux le formuler autrement.
Rien.
Je peux le formuler autrement. Est-ce que, en tant que professeur de lettres, si vous aviez eu à aborder le texte de Proust, est-ce que vous vous seriez interdit, est-ce que vous auriez interdit à vos élèves ce plaisir évident, je veux dire, qu'il y aura à rencontrer, même si on parle d'illustration, et vous voyez, je en tant que plasticien, je veux dire, j'aurais pu crier, ah non, pas d'illustration, mais peu importe, je veux dire, est-ce que vous n'auriez pas fait ce travail-là?
Personnellement, voilà, j'aime bien pousser les choses à fond. Donc, si je suis complètement honnête, je dirais que certainement, j'aurais fait quand même ce travail par les étapes. Mais ce que je n'aurais pas fait, c'est de réfléchir sur mes choix, de les peser, de les définir et de les justifier de la même façon. Je pense que quand on est sur le terrain, je serais allée chercher Georges de la Tour toute seule, mais pas forcément, je n'aurais pas poussé aussi loin l'enquête et je n'aurais pas réfléchi sur mes choix. Ce matin, quelqu'un a dit, on se regarde en train de travailler quand on cherche à communiquer ou à participer à une journée comme celle d'aujourd'hui. Et ça, je ne l'aurais pas fait, donc je n'aurais pas poussé ma réflexion à fond. Pour le reste... je n'aurais pas non plus poussé si loin. Il m'arrive très souvent, enfin, je travaille beaucoup en équipe, mais je n'aurais pas poussé si loin l'écoute des autres et cette recherche à la fois des points communs, de ce qui peut nous rapprocher. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question.
Moi, je peux faire une autre réponse. Qu'il y ait des profs de lettres qui se soient situés depuis toujours, depuis 20 ans, 30 ans, dans une optique qui est très très proche de celle des propositions ministérielles d'aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Ce qui peut être nouveau et intéressant, c'est l'invitation à généraliser ou à modéliser ce type d'approche. Parce que je pense que ce que Catherine a fait dans sa classe, pas mal d'autres professeurs sérieux qui font du très bon travail aussi, n'ont pas cet intérêt pour une approche transversale. Et donc à partir du moment où les programmes nous encouragent à intensifier ce type d'approche, on peut organiser des journées comme celle-ci, on peut présenter le travail de Catherine comme étant une possibilité qui peut être généralisée et on peut éveiller l'intérêt d'autres collègues qui sont peut-être tout à fait prêts à tenter l'aventure mais qui simplement n'y étaient pas appelés par les hasards de leur formation ou de leur histoire.
Par rapport à ce qu'on disait là, si j'ai bien compris, donc vous avez l'option histoire des arts dans votre lycée.
Oui.
Et le collègue dont vous parlez enseigne quelle discipline?
L'histoire des arts.
Mais juste, il est de quelle discipline d'origine?
Histoire-géographie.
Ah d'accord. Non, parce que
j'ai travaillé avec d'autres collègues d'histoire-géographie qui n'enseignent pas l'histoire des arts. Hein,
d'accord.
Il y avait un troisième collègue.
D'accord. Non, parce qu'effectivement, comme on le faisait remarquer ce matin, l'option histoire des arts, c'est bien un travail de plusieurs professeurs sur des programmes communs. La question, par exemple, actuellement au collège, c'est comment faire pour que les enseignants travaillent ensemble. Bon, moi, je vous donne un exemple tout bête, c'est-à-dire que l'an dernier, on a pris un peu un peu en cours de route ce dossier. Et le collègue qui pilote l'histoire des arts au collège, c'est un collègue de musique. Et en fait, il a suggéré qu'effectivement, on donne des pistes aux collègues via le site et via finalement des productions pour montrer que toutes les disciplines participaient. Et donc tous les collègues IPR ont réfléchi avec des formateurs sur en physique. Mais quand on regarde bien, parce qu'on a fait ça assez rapidement, moi je prendrai un de nos exemples que l'on avait choisi en histoire et géographie parce que ça nous semblait bien lyonnais, c'était entre autres Tony Garnier. Bon, à partir de Tony Garnier, en fait, il y avait urgence. Donc, quand on regarde bien, ce qu'on propose, c'est une approche complètement enseignement de l'histoire et de la géographie. Or, la grande difficulté pour les collègues à l'heure actuelle, la grande difficulté, c'est comment travailler ensemble. Alors, c'est vrai qu'en plus, en lycée, je pense que là, vous n'aviez pas forcément de professeur d'art plastique. Si, peut-être, avec l'option histoire des arts.
Voilà, non. Mais ce serait une dimension, bien sûr, encore une fois, à rajouter.
Parce que moi, ce serait peut-être une piste que je lancerais pour les travaux à venir au sein de l'INRP. C'est finalement, effectivement, ce travail, on va dire, codisciplinaire. Parce que les collègues ont déjà eu l'habitude, je parle du collège là, plus précisément, ont eu l'habitude avec les itinéraires découvertes, mais il n'y avait pas cette approche sensible aussi, forcément, pas toujours, enfin. Et là, il y a une réelle difficulté. Qui est bien sûr en plus multiplié avec l'histoire, ce qu'on disait ce matin, la question de l'évaluation. Parce qu'il faut savoir, quand même, malgré tout ce qu'on a pu écrire dans nos courriers de rentrée, on avait l'impression que les collègues connaissaient le texte du BO d'août 2008 et on avait l'impression que tout le monde connaissait les notes du 13 juillet 2009. Et en fait, concrètement, quand on va dans les établissements, peu de gens connaissaient. Et on se rend compte que si maintenant ils connaissent, parce que hélas, il y a l'échéance de cette option pour cette année pour le DNB. Mais du coup, les chefs d'établissement se sont dit oulala, il faut que j'inscrive mes élèves, mais c'est quoi ? Donc on s'est un petit peu affairé. Donc là, il y a la contrainte de l'évaluation qui pousse peut-être les choses. Mais c'est un réel problème, ça. Comment faire pour que les gens travaillent ensemble et comment faire pour qu'ils réfléchissent ensemble à l'évaluation ? Ça, moi, je trouve que c'est pas simple.
Par rapport à la réponse, il me semble quand même qu'une des situations qui ont permis, il y a la contrainte dont vous venez de parler, mais il y a aussi l'idée de créer une journée ou une demi-journée, parce que nous faisons dans tous les établissements pour préparer la rentrée suivante, et autour d'un projet, on essaie de constituer. Pourquoi ? Parce que les classes, notamment les classes de seconde, sont extrêmement hétérogènes. Et qu'à l'heure actuelle, tout le monde déplore l'absence de cohérence, l'absence de compétences communes. On demande tous la même chose, ils ne savent pas lire un énoncé, ils ne savent pas respecter une consigne, ils ne savent pas regarder un tableau, parce qu'on regarde un tableau en anglais aussi, on analyse aussi en anglais, enfin je veux dire dans toutes les disciplines. Donc moi il me semble quand même que les journées où on est ensemble et en sortant, on fabrique une séquence, on fabrique un projet, on construit quelque chose, sont les plus efficaces. Et le site... Pour moi, je me permets de vous répondre parce que je me suis occupée d'une revue, donc Le Français en tous ses états, pendant 12 ans, où j'ai écouté mes collègues, leur ai demandé des articles. Il me semble que c'est d'abord par le contact, par les échanges à l'intérieur de l'établissement qu'on peut construire un projet. Après, ce projet, il peut aller, comme dans toutes les cellules innovation, sur le site et servir de... Vous savez, on retravaille le document, on rajoute des éléments, mais le site seul, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, je ne pense pas qu'il permette de lancer, d'être à l'impulsion. Enfin, je m'adresse à tous mes collègues, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait d'abord cette rencontre transdisciplinaire, mais par les individus. Et ensuite, alors que la pression de l'institution de l'évaluation pousse, bien sûr, c'est certain, mais c'est la rencontre, on établit des pistes, après on va chercher sur les différents sites peut-être des modèles, des idées, et ensuite peut-être on construit. Excusez-moi.
Oui, non, je voulais juste réintervenir pour souligner que moi j'avais été assez sensible au fait que les élèves aient produit cet objet que nous a fait écouter à la fin, même si c'était fragmentaire, enfin l'écoute, pas l'objet. et que c'est une dimension à laquelle je suis sensible, pas seulement parce qu'ils ont produit quelque chose, d'abord parce qu'on parle d'une approche sensible depuis ce matin, et je trouve que l'une des approches les plus sensibles, c'est tout de même encore la pratique et la production. Et là, je parle en tant qu'hyper d'art plastique et que je n'oublie pas, même si ce matin, justement, par moment, j'étais un petit peu chagriné par le fait qu'on avait l'air d'oublier qu'il existait dans l'enseignement français, qui a beaucoup de défauts, mais au moins pas celui-ci, d'offrir un enseignement à tous les élèves de collège. Alors, il est perfectible, ça ne fait aucun doute, mais un enseignement de pratique artistique, que ce soit les arts plastiques ou évidemment l'éducation musicale. Et puis alors ça s'augmente de d'autres options que vous connaissez aussi bien que moi au lycée. Donc cette dimension d'une rencontre et d'un choc esthétique, j'espère bien que ces 4 ans au collège peuvent de temps en temps y concourir. Je ne suis pas tout à fait naïf, c'est pas toujours le cas hélas, mais je crois qu'on est tous là pour y travailler. Et alors qu'au lycée, on continue dans cet esprit-là, et que l'histoire des arts puisse aboutir, l'histoire des arts généralisée, parce que moi aussi j'ai enseigné en lycée l'histoire des arts, dans l'option, il n'est pas envisagé de conduire les élèves à des productions, au sens production artistique. Bon, il s'agit souvent de produire ces fameux dossiers qui pose d'ailleurs des questions au moment de l'évaluation du bac, mais pas d'une production véritablement sensible. Et là, ce que j'aime bien, c'est cette dimension-là. Et moi, ça m'intéresse également, parce que, pour revenir à ce que disait ma collègue d'histoire-géographie, les questions qui se posent pour l'évaluation de l'histoire des arts au DNB, notamment, je pense, peuvent trouver une partie de réponse dans un des aspects qui avait été évoqué dans la note de la DGESCO, justement, à savoir que les élèves peuvent être évalués sur une production individuelle ou collective, et qu'on a là, à mon avis, une occasion à saisir. Et moi, j'incite souvent, quand j'en parle aux professeurs dans l'Académie de Clermont-Ferrand ou aux chefs d'établissement, j'incite vraiment à se saisir de cette opportunité-là, de manière à éviter que l'enseignement d'histoire des arts ne devienne un enseignement théorique supplémentaire dont les élèves dont vous parliez visiblement, ou ceux de n'importe quel ZEP ou de n'importe quel RAR, n'ont évidemment pas besoin. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'un enseignement théorique de plus dans une langue qui leur échapperait encore un peu plus, et à partir éventuellement de sujets dans les tableaux qui leur échapperaient tout autant. Voilà, merci.
C'est aussi la concrétisation, c'est aussi un moyen de rassembler les professeurs des différentes disciplines. C'est-à-dire de voir que ce travail commun a pu aboutir à une présentation par les élèves et que les collègues entendent, et encore une fois, professeurs de mathématiques ou autres, parce que ça, je pense qu'on peut encore une fois le modéliser, hein. Il est clair que l'ensemble de l'équipe pédagogique assistant à la présentation d'une production est soudée, enfin, et aussi, du coup, investie. Puisqu'on doit aboutir à une production, d'accord ? C'est-à-dire que la concrétisation nous amène aussi à travailler ensemble.
Voilà. Je voudrais ajouter une ou deux choses. On est bien d'accord sur le fait que le travail que nous a présenté Catherine est un travail qui synthétise, ou qui permet de synthétiser un certain nombre des orientations qui ce matin étaient données un peu comme en tension et contradictoires. Et donc moi j'entends bien, effectivement, voilà, il y a à la fois une interrogation de l'expérience esthétique, un travail sur des savoirs spécifiques, et puis il y a aussi une orientation production, ce qui est relativement rare dans des classes de lycée. De manière peut-être beaucoup plus localisée, moi j'ai été assez sensible à un aspect qui, à mon avis, n'apparaissait pas dans les classes de français, en tout cas, puisque moi je suis didacticien du français, et c'est plutôt ce domaine-là que je connais. Ce matin, on a beaucoup parlé de la cuisine ou de l'antichambre des œuvres, de ce qui les prépare, de leur genèse, etc. Et je crois que le fait d'avoir à faire se rencontrer des œuvres plastiques ici, de la peinture, et des textes littéraires, conduit à mettre en scène des instances qui n'apparaissaient pas traditionnellement dans la classe. Alors peut-être un peu en histoire, j'en sais rien. Mais le salon des refusés, la vie littéraire, tout ce qui se passe... je vous donne un exemple parce que pour moi ça rejoint de manière très très précise une activité que je conduis avec des élèves de licence, des étudiants de licence. Je leur fais lire des textes de Gauguin, Et quand on lit des textes de Gauguin, on est immédiatement confronté à un nécessaire travail d'enquête qui permet de ressusciter toute une période. Par exemple, Gauguin collabore avec un poète qui s'appelle Charles Maurice. Charles Maurice, aucun manuel de littérature, aucun Lagarde et Michard ne parle d'André Fontenas, poète correspondant de régulier de Gauguin, ou de Charles Maurice. Et le fait d'avoir à enquêter sur ces à côté, Germinie Lacerteux, des frères Goncourt, on le lit pas au lycée. Et là, tout d'un coup, le fait de le voir apparaître, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Et je me suis rendu compte, donc là, ce sont des étudiants donc beaucoup plus âgés, mais je suis sûr qu'on peut trouver des équivalents avec des élèves plus jeunes, avoir à faire tout un travail d'enquête pour ressusciter une époque avec ses producteurs mineurs, ses peintres secondaires. Gauguin correspond avec des peintres qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Il travaille avec des écrivains dont on ne sait plus qui ils sont. Il écrit à des banquiers qui lui pressent de l'argent. Il écrit à Émile Schopenhauer, qui est à la fois un peintre, un donateur, etc. Et cette possibilité de donner une épaisseur sociale, comme en a un peu parlé Éric Villagordo ce matin, je trouve que la rencontre entre les arts le permet beaucoup plus que le fait de rester, pour l'itacitien de la littérature que je suis, dans son propre champ. C'est-à-dire, quand on est en littérature, on travaille sur des écrivains reconnus, par exemple, on oublie complètement que pour un Zola ou un Flaubert, il y a derrière une quantité de gens qui ont écrit, mais qui ne sont pas passés à la postérité. Et ça, je trouve que c'est une entrée vraiment intéressante. Un autre aspect que j'ai trouvé vraiment très intéressant aussi pour moi, c'est la mise en valeur de la description des œuvres. Ça a été un petit peu effleuré ce matin. Avant d'interpréter, il faut apprendre à regarder. Et je trouve que là, le fait que ce soit un prof de français, c'est-à-dire, alors, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, quelqu'un qui n'est pas spécialiste, quelqu'un qui a priori n'y connaît rien avec plein de guillemets, qu'on soit obligé de regarder attentivement une œuvre, je pense d'ailleurs qu'on devrait le faire, nous, les profs de français, un peu plus souvent quand il s'agit aussi d'œuvres littéraires, c'est-à-dire qu'avant de plaquer ou d'imposer des interprétations ou des analyses, apprendre simplement à regarder et demander aux élèves de regarder et de dire ce qu'ils voient, je pense que c'est un préalable vraiment très très intéressant et très nécessaire, et souvent oublié dans les pratiques d'enseignement.
Justement, à propos de Diderot, moi j'ai choisi un exemple lycée, mais à propos de Greuze, vous savez, le petit oiseau est mort. Il y a tout un travail que j'avais communiqué à mes PLC2 et ils se sont lancés et Diderot raconte l'histoire. À partir du tableau, il se met à raconter, alors elle a été trompée, elle pleure parce que... Et donc il invente un roman à partir du tableau de Greuze. C'est-à-dire que dans les salons, en décrivant le tableau, il invente une fiction en disant « tu as été abandonné », il s'adresse à elle dans un dialogue. Et une de mes stagiaires donc de l'UFM, puisque j'ai fait quelques vacations à l'UFM de Montpellier, a essayé ce travail d'écriture et ça a donné lieu à une fiction. C'est-à-dire, comme Diderot, ils se sont mis à inventer l'histoire de la jeune fille bien triste avec son petit oiseau. Alors ça, je trouve que c'est aussi intéressant parce que si vous voulez que, bon, c'est Proust qui disait, tourner la lecture de l'œuvre d'art vers l'intérieur, il faut qu'il y ait possibilité d'inventer à partir de l'œuvre d'art. C'est-à-dire d'écrire tout ce que nous dit l'œuvre d'art. Et donc une certaine liberté. Et ça, c'est très difficile de trouver une, parce que moi j'ai cherché un dispositif qui permette à l'élève, et là, pour l'élève de collège, ils ont pu, comme Diderot, inventer à partir du tableau, c'est-à-dire dire ce qu'ils voyaient au-delà de ce qu'on peut décrire, mais ce qu'on peut imaginer à partir du tableau. Et là, moi, je pense que je vais continuer à chercher des pistes là-dessus, dans les textes de critique d'art, bien sûr.
Oui, justement, par rapport à l'observation, j'ai quelques petits éléments peut-être à apporter à ça. Je suis prof d'art plastique, donc depuis un certain nombre d'années. Et il m'est arrivé de constater que il y avait vraiment un problème d'observation. Et quand vous dites observation et que vous parlez de l'observation pour une appropriation d'un récit, par exemple, il y a une chose qu'on ne sait absolument pas regarder et observer de façon précise, ce sont les règles de la perspective, par exemple, les règles de l'organisation des valeurs. Ce vocabulaire appartient spécifiquement aux plasticiens. Et malheureusement, quand on approche une image, assez souvent, et moi je le constate régulièrement, On n'a pas ce vocabulaire. Enfin, les autres enseignants n'ont pas ce vocabulaire, ne savent pas où est le point de fuite, pourquoi il est là, pourquoi il représente une clé. Enfin bon, tous les travaux qui ont été faits sur la question. Et moi, il m'est arrivé d'apprendre à dessiner à mes élèves ce qui, à une époque, était considéré comme pas simplement ringard. Et justement pour un travail d'observation très précis de d'un moulage et savoir comment c'était fait. Et le fait de s'écorcher les yeux à une observation réelle leur permettait évidemment d'être beaucoup plus actifs dans leurs observations futures. Et c'est le travail qui malheureusement n'a pas été fait pendant des années. Et là, je pense que nous, profs d'art plastique, on en porte quand même une certaine responsabilité, parce qu'on n'a pas suffisamment, à mon goût, à mon sens, travaillé dans ce sens-là, sur justement les régimes de visibilité qui s'engendraient les uns les autres et qui venaient de l'académie, enfin de la tradition. Tradition qu'on a largement oubliée au profit de procédés de création, par rapport auxquels, évidemment, je ne suis absolument pas hostile, au contraire. Mais je pense qu'on n'en a pas, on n'a pas établi suffisamment les filiations entre ces régimes de visibilité, qu'on trouvait passablement passéistes pour les uns. Et donc, on a oublié tout ce travail d'observation et ce qui fondait notre discipline. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'enseignants d'autres disciplines se sont appropriés la nôtre.
Et là, le lien avec le professeur de SVT est frappant, parce que justement, les élèves ont fait le lien entre l'observation en TP d'SVT, quand on demande d'observer, et ce que je leur demandais sur les tableaux. Est-ce que ça m'a frappé, parce que je me suis dit, mais ils observent dans toutes les matières. Eh bien non, c'est SVT qui leur est venu comme modèle, c'est-à-dire la biologie. Et comment là, l'observation, justement, il y a aussi un langage, et c'est ce lien-là qu'ils ont tissé.
Et donc je voudrais parler ici, parce que je n'ai pas envie d'en parler dans un autre groupe. C'est en fait, si je fais le lien entre les images que vous avez retenues et ce que vient de dire madame, il me semble nécessaire de rappeler que l'introduction de l'enseignement de l'histoire des arts ne doit pas être un biais par lequel on va centrer l'apprentissage sur les images classiques à l'exclusion... grosso modo de la période qui commencerait en 1910 jusqu'aux périodes actuelles. Je dis ça parce que finalement quand on se pose les questions des outils comme la lecture, la perspective, rechercher le point de fuite, etc., il est bien évident que ça s'appliquera d'autant plus facilement aux images classiques et un peu moins à une image d'une installation de néon de James Turrell ou de Dan Flavin. La question ne se posera pas de la même manière. Et les enjeux et la lecture plastique de l'image et une lecture sensible de l'image, pour le coup, la nécessitera effectivement une expertise probablement plus forte du côté des arts plastiques. Et si effectivement d'autres disciplines peuvent s'emparer d'images classiques, c'est parce que probablement on peut en parler avec un peu moins d'expertise, sauf à aller du côté d'une iconographie un peu plus soutenue. Mais ça me paraîtrait quelque chose d'un peu inquiétant que l'histoire des arts, finalement, soit l'entrée par laquelle une certaine forme de classicisme des objets d'études soit réintroduite, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, hein, pas l'objet. Hein.
Juste, ce que je voulais vous dire, c'est que mon pari, c'était de m'adresser, puisque c'était un groupe lettres français, de m'adresser à des professeurs de lettres pour leur dire, au cœur même de ce que vous faites tous les jours, des auteurs les plus classiques, on peut essayer de le faire. Il est passionnant de travailler sur Soulages. Nous avons au musée Fabre, n'est-ce pas, un travail d'installation, de mise en valeur. Ensuite, nous avons l'entente entre le peintre et quand même la construction du musée. Bon, c'est quand même quelque chose de passionnant. Le texte de Michel Ragon. Nous avons Charles Juliette. Donc, mon propos était ciblé puisqu'il s'agissait de montrer qu'un professeur de lettres, dans ce qui est le cœur de son travail, c'est-à-dire avec des auteurs classiques, d'où mon choix, nous sommes d'accord. Mais je crois que bien entendu, il ne s'agit pas de limiter, il faut développer d'abord toutes les cultures, toutes les formes d'art. J'ai choisi la peinture là, mais le but, enfin, on peut faire ce travail avec la danse, on est bien d'accord, il faut ouvrir au contraire. Hein, mais le prendre au cœur même de notre discipline, c'était montrer qu'elle éclairait aussi notre discipline, voilà.